Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre cinquième podcast consacré aujourd'hui à Jazz en queue à l'occasion de la sortie de A Touch of Sin le 11 décembre. Pour parler avec moi de la carrière de Jazz en queue et tout particulièrement de son dernier film A Touch of Sin, nous accueillons notre ami Sidi Sako de Ceci dit au bas mot. Salut Sidi, comment ça va?
Bah salut, ça va plutôt pas mal, ça va. J'espère qu'on fera aussi bien que la première fois.
Donc vous étiez là avec nous sur Hong Sang-soo, sur le podcast numéro 3. Et j'accueille aussi, bien sûr, Jérémy Kaufmann, qui était là sur... C'était quoi ton dernier podcast, Jérémy, d'ailleurs?
C'était Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho, ouais, le mois dernier.
Le mois dernier.
Et enfin, Yannick Vaness, en direct de Belgique. Salut Yannick.
Salut, comment ça va?
Bah ça va, je crois que tu les as tous faits depuis Bong Joon-ho. Enfin, il n'y a eu que des BZ en même temps, donc...
Bah, en fait, à part celui sur Hong Sang-soo, j'étais là sur tous, effectivement.
Absolument. Donc, A Touch of Sin, c'est quatre histoires de la violence en Chine, quatre destins entrecroisés qui dressent le portrait d'une société malade, qui sort en salle donc le 11 décembre, qui est sorti, vu qu'on est le 13 décembre. Est-ce que ce film vous a touché, Jérémy?
Excusez-moi, je buvais ma tisane. Beaucoup touché. Déjà, bah, je l'ai mis numéro 1 de mon top annuel. Et depuis Cannes, en fait, il n'y a pas bougé. C'était la grosse claque. Esthétiquement, c'était sublime. C'était vraiment la grosse claque. Voilà. Donc, on en reparlera après.
Tu l'as découvert à Cannes, hein. Donc,
première vision à Cannes, après deuxième vision en Projo Press. Et non, c'est vraiment c'est la grosse claque de l'année.
Yannick, est-ce que tu partages cet enthousiasme?
Totalement. Moi, je dirais même pas touché, mais carrément transpercé. Alors, j'ai pas encore fait de top annuel, donc je sais pas, mais je pense qu'il sera en tout cas en très bonne position. Et effectivement, c'est un film vraiment magnifique et bouleversant que je peux difficilement oublier.
Et quant à toi, Sidi, est-ce que ton numéro 1 cette année sera A Touch of Sin?
S'il arrive numéro 10 de mon top, c'est que vraiment j'aurais pas vu beaucoup de bons films dans l'année, disons.
Donc, il fallait une voix moins.
Bah voilà.
Ça
donne un indice quant à mon avis sur ce film intéressant au demeurant, mais bon, on aura l'occasion de développer, je crois. Voilà.
Généralement, on dit qu'on met une petite comédie. Enfin, moi, c'est ce que je fais quand je fais mes top 10. Je mets un film un peu moins. Voilà, un peu moins important, soit un blockbuster qui est plutôt pas mal, ça pourrait être Star Trek, quoi. Ou une petite comédie, ouais. Ou un Judd Apatow. Ouais. Donc bon, là, avec A Touch of Sin, on est très très loin de la comédie. Moi, il sera pas du tout dixième de mon top, je pense qu'il sera premier sur un top asiatique. On reviendra sur le prochain podcast, sur le bilan 2013. Mais je pense qu'il y a eu Shokuzai cette année de Kurosawa, qui était une énorme claque, et A Touch of Sin qui est assez... qui moi aussi m'a vraiment fasciné. J'ai découvert à Cannes avec Jérémy, je l'ai revu ensuite en projection de presse, et c'est vrai que j'ai encore l'impression d'avoir uniquement effleuré le film. Je pense que je vais aller le revoir, et tellement il est plein de cinéma, d'idées, de sens, de propositions sur la vie, sur le réel. Moi, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé. Également. Et c'est vrai que je vais d'abord me retourner vers toi, Sidi, ouais. Pour savoir effectivement ce qui t'a gêné, parce qu'on en reparlera après, mais il me semble que tu aimes plutôt bien le cinéma de Jia Zhangke. Oui. Quel a été le point de rupture dans A Touch of Sin?
Alors, j'étais pas à Cannes cette année, mais bon, voilà, j'ai vu quelques extraits qui m'ont intrigué, voilà, des scènes d'extrême violence qui m'ont fait penser à Tarantino. Là, j'utilise vraiment un exemple très simple, voilà, de violence un peu hyperbolique. Voilà, donc ça m'a intrigué de voir ce que le réalisateur de films non dénué de violence. Il y a toujours eu une part de cruauté dans le cinéma de Jia Zhangke, mais cette fois-ci, apparemment, il avait envie de s'attaquer à une représentation très frontale, très 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 cash et très excessive. Donc voilà, j'y suis allé vraiment avec une certaine curiosité. Et que dire, quand vous parlez d'émotion et de bouleversement, je me demande si j'ai vu le même film, les gars, parce que je n'ai vu qu'un exercice de style, moi. Ça, je suis resté totalement en dehors, et j'ai simplement constaté qu'il avait envie de s'amuser un petit peu à faire son petit film de genre. Voilà, ça m'a pas surpris une seule seconde. Il y a certes une certaine virtuosité, il y a certes des scènes assez anthologiques, mais j'ai eu l'impression tout du long de me dire bon, bah alors est-ce qu'il va le montrer, est-ce qu'il va pas le montrer? Le vieillard va taper mademoiselle 10 fois. Bon, on sait que mademoiselle a quelque chose dans son sac. Il va forcément se passer quelque chose au vu de ce que l'on a vu précédemment. Donc voilà, je suis resté dans cet état permanent de prédiction de ce qui allait arriver. Et je pense que c'est jamais très bon signe pour un spectateur d'être simplement dans cette attente du coup qui viendra forcément. On parlait en préparant, juste avant de commencer l'enregistrement, on parlait d'un film d'un cinéaste, Amat Escalante, qui a été récompensé du prix de la mise en scène à Cannes. Et son précédent film, qui s'appelait Los Bastardos, avait le même problème pour moi. On y voyait deux Chicanos qui s'introduisaient dans la maison d'une famille américaine avec un pistolet. Et pendant tout le film, donc, ils étaient en train de s'amuser avec la propriétaire des lieux. Et on se doutait qu'il allait se passer quelque chose, que cette arme n'était pas montrée pour rien. Dans Touch of Sin, il y a un peu le même problème, quoi. J'ai l'impression que il nous montre un petit peu l'objet qui va forcément provoquer, in fine, à la fin de chaque sketch. Enfin, en tout cas, à la fin du sketch avec Zhao Tao. Je crois que vous avez vu le film à l'heure où vous écoutez ce podcast. Zhao Tao
On
a un
espère pour vous.
couteau dans la main et on se doute bien que ce couteau que le réalisateur nous montre quand même assez clairement aura un rôle à jouer. Et au vu des deux précédents sketchs, voilà qu'on sait un petit peu que ce qui nous sera montré sera, disons,
En
assez
fait, tu as trouvé le film un peu programmatique. C'est-à-dire, une
très
fois qu'on a
programmatique.
passé les deux premières, voilà, les deux premières histoires, on a compris la structure, et comme la structure est répétitive,
Voilà.
tu attendais le.
Disons qu'il y a un effet de surprise au premier sketch, même si
On s'y attend quand même,
voilà, on s'y attend pas. Et pour moi, voilà quoi, ça nuit peut-être un petit peu, pour moi en tout cas, à la surprise quant à la suite, quoi. J'ai l'impression d'avoir tout vu un peu
Moi,
trop tôt.
j'ai l'impression que justement l'effet de surprise est présent dans la toute première scène qui, à mon sens, contient aussi le film. C'est-à-dire, on arrive, on sait qu'on est dans un film de Jason Keough, c'est très bien filmé, il y a cette route en Chine, et tout d'un coup, il va filmer un gunfight. Enfin, il va filmer un gunfight. Une fois le gunfight terminé, on va se retrouver devant un autre personnage, il va y avoir une explosion qui va pas avoir de signification tout de suite dans le film. Et j'ai l'impression que l'élément de surprise, il est directement là et il est désamorcé par la suite. Que pour moi, ça n'a pas eu trop de. Je me suis pas posé la même question parce que ça n'avait plus trop d'intérêt. C'était désamorcé par cette première scène. On savait que la violence allait arriver à un certain moment donné dans l'histoire. Alors il y a un peu cette surprise dans la première histoire. Le personnage lui-même n'est pas sûr et hésite à utiliser la violence, et une fois qu'on a compris le mécanisme qui est en place, l'élément, en tout cas de surprise, ne m'a pas semblé aussi important que ça. Je me suis vraiment laissé porter à la fois par l'histoire et les symboles de l'histoire qu'il raconte, et c'est plutôt ça qui m'a touché, plus que par l'exercice de style qui, à mon sens, était désamorcé par cette première scène. Je sais pas.
Mais la première scène montrait quand même une violence très, très sèche, mais relativement sobre, hein, je trouve. Moi, c'est plus l'excès. C'est cette espèce de plaisir manifeste de Jason Kay à filmer des cervelles qui explosent plein écran. Voilà, c'est ce que non, c'est pas forcément. Effectivement, on voit lors de la première scène, c'est ce motard qui bute un petit peu les jeunes gars qui le
C'est
cherchent.
une violence libératrice, à la fois pour son cinéma, j'ai l'impression, et pour les personnages. Enfin, ça va, ce plaisir de filmer cette violence, à mon avis, est lié aussi à ça.
Et on sait qu'il est fan, voilà, il est fan de John Woo. On sait qu'il est, voilà, qu'il aime ce cinéma-là et que, voilà, et puis il se lâche, ouais, il se lâche. Je vois pas quoi. Ça détruit pas la force du ça amenuise pas la force du propos. J'ai l'impression que, ouais, il se fait vraiment plaisir sur le coup, mais on y éprouve quand même, en tant qu'amoureux, si on est amoureux de films de genre, on y éprouve une certaine jouissance, quoi, vraiment. Voilà, la scène où. C'était le premier segment où il arrive avec son fusil à pompe et qui démonte tous les patrons. On y éprouve, il y a une certaine, voilà, c'est une libération dans la violence, quoi.
Ouais, mais c'est cette violence.
Ça t'a gêné alors, en fait?
Moi, la violence dans un film assumé comme gore, moi, ça me va totalement. La violence, même chez Tarantino, peut m'aller à partir du moment où il nous expose un monde, comment on va dire, un peu parallèle, un monde un peu irréel, quelque chose comme ça.
Mais
La violence dans un cadre un petit peu plus situé.
on est dans un monde purement cinématographique.
J'ai pas trouvé le film si violent de manière graphique, personnellement. Oui, dans le premier segment, parce que j'ai un peu de mal à penser en termes de sketch, parce que pour moi les histoires sont assez interconnectées. Mais bon, bah il est évident que quand le personnage utilise son fusil et tout, il y a quand même du sang qui gicle. Mais j'ai pas trouvé ça tellement violent, tellement barbare. On est très loin d'un débordement de Tarantino. On est très loin de son esthétisme. On est très loin de sa coolitude dans la violence. Là, c'est pour moi, c'est plutôt un éclair de sang, mais qui sert totalement le propos et qui est pas si choquant, traumatisant ou quoi que sais-je.
C'est moins vain, quoi. C'est moins vain que Tarantino. Il a beaucoup de choses à dire, Jason Keu, quoi, sur le
moins
de la
vain
film.
Et aussi moins beau. Je veux dire, c'est pas le but, c'est pas une esthétisation de la violence.
Alors c'est vrai qu'il y a ce côté de libération des personnages dans la violence, hein. Je suis d'accord avec toi. Après, le plaisir qui prend le spectateur est quand même assez ambigu, parce que même les actions des personnages, hein, enfin, effectivement il y a ce côté, on attend la violence, elle arrive, il y a quelque chose d'assez jouissif à filmer un vrai film de genre à la manière de Jason Keu. En même temps, on n'est pas non plus du côté des personnages qui commettent l'acte de violence nécessairement.
Non, mais
c'est un peu moins vrai pour Zawatao.
C'est d'un point de vue vraiment cinématographique où on sait, quoi, dès le début du film, on sait qu'on est dans un film de genre et que on attend qu'il se passe quelque chose, on attend la fusillade, on attend que ça pète, et c'est dans ce sens-là qu'il y a la jouissance, mais pas idéologiquement, ou pas on n'attend pas, on n'est pas, c'est pas dans un film de Charles Bronson, on n'est pas il veut pas se faire justice, ou on n'est pas de son côté, clairement.
Ouais, c'est plus ambigu, ouais.
Voilà,
mais j'ai pas vraiment ressenti ça, moi, pour ma part. En tant que vrai amoureux, vrai fan de cinéma de genre, j'en bouffe à toutes les sauces, j'ai vraiment pas eu l'impression d'être dans du cinéma de genre, mais plutôt dans un drame dur et violent. Mais à aucun moment il y a, enfin, en tout cas pour moi, hein, il y a cette attente, ce désir de voir éclater la violence. On la voit survenir, mais elle est toujours brute, elle est toujours désagréable. Il y a pas du tout la même démarche ou le même ressenti pour le spectateur que devant un film de genre, un film d'horreur ou un polar hard-boiled.
Oui, il y a ça, il y a cette ambiguïté face à la violence quand on prend la première partie du film. C'est vrai qu'on se demande quand il tue le comptable. Enfin, on ne sait pas si le comptable est vraiment impliqué dans ses magouilles. Il se trouve que le personnage a raison. On ne sait pas non plus s'il a raison parce que juste il est paranoïaque, envieux. Enfin, on ne sait pas pour quelle raison il arrive à condamner ce qu'il y a autour de lui. Il y a une pauvre femme qui passe par là, elle vole, hein, elle se prend une balle, elle meurt aussi, donc il y a une certaine forme d'ambiguïté par rapport à ça. Après aussi par rapport à ce que tu disais, Sidi, et ce que tu dis, Yannick, aussi sur le cinéma de genre, je pense qu'on est vraiment à la croisée du cinéma de Jason Keu et du cinéma de genre. C'est vrai que j'avais vu sa masterclass où il expliquait, on le sait dans son cinéma, que depuis tout petit, les films qu'il allait voir, enfin quand il était ado, les films qu'il allait voir, c'était les films de Hong Kong, c'était les films de Sabre, c'était les polars, c'était des films qui venaient de Taïwan, du cinéma populaire. Et c'est qu'après qu'il a découvert le cinéma de la cinquième génération, les premiers films, donc qui montraient la réalité de la vie en Chine, et qu'il a voulu montrer ce qu'étaient vraiment des vrais gens en Chine, et filmer le quotidien chinois. Et là, j'ai l'impression qu'avec Tchaïkovski, il arrive à concilier les deux. C'est-à-dire qu'il rend hommage au film qu'il voyait dans son adolescence. Et c'est en ça qu'à mon sens, il est quand même dans un film de genre. Il reprend des archétypes du wuxia, du polar, même un peu avec certains personnages. Et en même temps, il décrit quand même la société actuelle de manière réaliste. Mais dans ces explosions de violence, il me semble qu'on est justement entre les deux. Donc on est autant dans un monde fantasmé qui est celui du cinéma de genre, comme on peut l'être chez Tarantino, que dans un monde où la violence a une vraie implication sociale et des vraies conséquences pour les personnages.
Oui, il y a toujours un rappel, même si on est dans le pur, voilà, dans le Grand Guignol presque, à la limite, hein, dans la séquence du fusil à pompe par exemple, il y a toujours ce petit rappel. Voilà, il y a par exemple la scène où on voit le vieillard qui tape sur son cheval sans arrêt, etc. C'est très symbolique, mais en même temps, ça nous rappelle vraiment la condition, voilà, la condition des gens en Chine. Et il nous rappelle sans arrêt qu'il y a une réalité derrière et que c'est pas que un film de genre. C'est pas que son wuxia ou son polar. C'est aussi un film sur la Chine d'aujourd'hui.
Bah, en tout cas, c'est les deux,
C'est les
quoi.
deux,
C'est
ouais,
que, quoi.
c'est
Enfin,
oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment le c'est une
enfin, il
somme,
n'y a
quoi.
pas de dédain.
Non, non,
Justement,
c'est vrai.
il adore
C'est ça.
on sent qu'il adore le film de genre, quoi. Donc,
C'est clair que voilà, je pense que vous avez raison de ce point de vue-là. Ce film est un vrai défi, je pense, effectivement, pour lui. Il a vraiment, sans forcément nier, effectivement, le souci qui a toujours été le sien d'observer le sort des individus dans une Chine en mouvement, dans une Chine ch changeante. Il a voulu, effectivement, cette fois-ci, leur donner une sorte de, je dirais pas de super pouvoir, mais en faire des personnages qui prennent les armes. De mémoire, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de scène de ce genre dans son cinéma avant. Enfin, je sais pas.
Non, j'ai pas l'impression non plus,
Ouais.
justement, il n'y avait pas de moyen vraiment de se révolter pour les
C'est ça,
personnages.
il subissait.
Ah, peut-être dans Still Life, mais il faudrait le revoir, il y a un personnage qui est fan de Chow Yun-fat, hein, et il me semble qu'il se fait tabasser à mort et qu'il finit assez mal. Mais en tout cas, justement, il me semble que ça reste hors champ. On voit pas la scène, et qu'il n'a pas non plus les armes du film de genre pour pouvoir se défendre. Ouais.
Maintenant, mon souci se situerait encore au-delà même de la question de la violence, il se situerait dans cette idée de faire un grand film pessimiste. C'est-à-dire que la logique du film, c'est la logique du coup pour coup. Ces personnages rendent à ceux qui les malmènent toute la violence qu'ils reçoivent. Le héros du premier sketch se fait taper sur la tronche au départ à coup de marteau, je crois.
Coup de pelle.
À coup de pelle, voilà, donc voilà, sa tempe saigne. Et donc à la fin, on peut dire que ce débordement de violence est une manière de dire, voilà quoi, je vais te rendre au centuple tout ce que tu m'as fait, tout le mal que tu m'as fait. C'est un petit peu pareil avec le personnage de Zhao Tao. J'ai l'impression qu'il a voulu faire un film aussi pessimiste que ce qu'il faisait avant, mais je sais pas, il y a une manière de complaisance pour moi dans cette manière de vouloir dire que le sang ne peut pas ne pas couler. Voilà, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose d'un petit peu régressif de sa part. Voilà, je.
Tous les personnages ne rendent pas les coups, loin s'en faut. Tu as par exemple le motard du début, qu'on voit par la suite, qui lui a une démarche agressive juste parce que c'est le seul moment où il s'ennuie pas, donc qui donne des coups sans même en recevoir auparavant. Et on a ce jeune personnage qui s'en prend plein la poire tout le film et qui finalement se jette du haut d'un balcon parce que c'est le seul moyen de s'enfuir et qu'aura jamais donné un seul coup de tout le film.
Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans ces accès de violence du côté des personnages. On est, ça on va pouvoir en reparler dans tout le cinéma de Jia Zhangke, qui est un cinéaste qui observe, on verra par rapport à la force de son discours où il se situe, mais en tout cas il montre des situations et c'est pas un état, en tout cas le coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas quelque chose avec lequel il est forcément d'accord, et c'est au spectateur aussi de se faire son avis là-dessus. En tout cas, on prend pas forcément position pour ce qui est décrit dans le film.
Mais on se
Et
positionne où alors finalement?
bah, on se positionne, à mon sens, on observateur, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce pessimisme qui est très important. Après, il y a une ambiguïté par rapport aux actions de chaque personnage. On sait pas, enfin, en tout cas, on se dit pas à un moment. Ces personnages ont raison de faire ça. On dit juste, ces personnages sont acculés à tel point qu'ils n'ont pas d'autre recours. On comprend pourquoi, en fait, ils ont recours à la violence. Je pense qu'on est dans une situation de compréhension, mais pas forcément d'acceptation, où on dirait plus d'empathie avec les personnages. On comprend voilà, le point de non-retour auquel ils arrivent. On n'est pas obligé de les excuser, on n'est pas obligé d'être avec eux. On essaye juste d'être dans la peau de ces personnages pour comprendre ce qui les a amenés à un tel déchaînement de violence, qui peut être aussi effectivement une violence qui est subie, ou en tout cas la dernière scène, c'est une scène de suicide. Donc c'est juste quelque chose qui nous amène une compréhension par rapport à des choses qui existent en Chine. Il me semble que Jia Zhangke est parti de, à la fois de... Alors il a plusieurs projets de films, mais je crois qu'il parlait de faire un Wuxia, qui va d'ailleurs faire. Mais ce film vient de l'observation de faits divers en Chine et de la recrudescence de certains faits divers qui avaient trait à la violence. Et je crois que vraiment le positionnement qu'il a, et donc qu'on a en tant que spectateur, c'est ce positionnement d'observateur et d'essayer de comprendre ce qui se passe en Chine actuellement. À mon avis, ça se passe partout dans le monde, pour que des gens agissent de telle façon.
Tu ne l'as, tu ne l'as. Là, Sidi, il est calmé, là.
Sidi va revenir, ne t'inquiète pas.
Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que. Puis on, ça, voilà, cette loi du talion là, que tu évoquais, on le ressent vraiment dans les deux premiers segments, surtout, où c'est vraiment très appuyé. Mais je pense qu'il n'y a aucune. Ouais, il n'y a pas de. Il ne nous dit pas, bon, bah oui, voilà, quand le sang appelle le sang. Ou... Non, je pense qu'il vraiment, il se pose là, il observe et il se dit. Pourquoi, comment on peut arriver à ces extrémités en Chine aujourd'hui, comment ça peut se passer ce genre de choses, quoi.
Vous ressentez ce questionnement en regardant le film? Moi,
Ben,
j'ai
totalement. Oui.
moi j'ai été assez impressionné par le. J'ai trouvé que la caméra du réalisateur était vraiment très neutre, que comme le dit Jérémy et Victor. Il y avait vraiment pas de positionnement, que le réalisateur filmait ses personnages et laisse le spectateur dans un rôle de voyeurisme, à lui d'accepter d'être bouleversé ou quoi. Je veux dire, on peut difficilement, par exemple, justement le personnage du motard qu'on retrouve longuement après, quand on le voit abattre une femme dans la rue pour lui piquer son sac, même pas parce qu'il a besoin de pognon, mais juste parce que c'est le seul moment où il se sent vivant, on peut pas l'excuser, on peut pas le pardonner, on peut même pas ressentir d'empathie pour lui. C'est juste un fait divers que le spectateur se prend en pleine gueule, et je trouve ça magnifique de voir cette scène-là. Le spectateur se retrouve voyeur de ça, et on peut pas ressortir indemne d'une telle scène.
Moi, je dirais pas voyeur, je dirais
Ouais,
témoin. C'est
voilà,
un
c'est
peu
ça.
on n'est pas dans une position, dans un positionnement de voyeur, parce que justement, il contextualise énormément ce qui va amener à cette violence. Donc, à mon avis, on est plus témoin d'un
C'est ça.
processus que vraiment voyeur, juste d'un acte, comme ça peut l'être dans un, enfin, ça peut la différence entre la description d'un fait divers dans un journal et là un processus artistique qui va nous faire comprendre ce qui amène à ce fait divers.
Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est le genre de personne qu'on voit dans un fait divers. On se dit, putain, ce mec-là, c'est un monstre, voilà, c'est le mec que tu vois à la page des faits divers. Et on nous le montre avec sa famille. On voit qu'il a un fils, on voit qu'il traverse la Chine, qu'il travaille, on nous met son background, on voit un peu comment il vit, etc. Et pourtant, bah, on n'a pas d'empathie pour lui, parce qu'on voit, y a les faits qui nous sont montrés. Clairement, quoi. On voit qu'il a une famille, on voit que c'est un, on l'humanise, mais on n'excuse pas ce qui se fait, on n'a pas forcément plus d'empathie pour lui, quoi.
Nous allons un peu reparler de la filmographie de Jia Zhangke, qui est apparue en 1997 avec Xiao Yu, et dont Touch of Sin est le 10e long métrage. C'est vrai que c'est une filmographie qui est partagée, il a fait beaucoup de courts métrages, qui est partagée entre long métrage, court métrage, documentaire, fiction, et il va dans énormément de directions. Sidi, qu'est-ce qui a été le point de rupture pour toi dans Touch of Sin? Ou disons, s'il me semble que tu aimes son cinéma, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce que tu n'as pas retrouvé dans Touch of Sin qui t'avait plu dans ses autres films? Ou pourquoi tu aimes son cinéma et tu n'aimes pas ce dernier film?
Bah, moi, ce qui m'intéresse à la base dans le cinéma de Jia Zhangke, c'est ce côté un peu fiction diluée dans la prise documentaire, c'est-à-dire, et ce dès son premier film, Xiaowu, qui m'avait saisi par ça, par l'accompagnement d'un personnage vraiment lambda, voilà, ce fameux Xiaowu, dans son quotidien de jeune pickpocket. Et la manière dont il était confronté à la brutalité de la société dans laquelle il vivait. J'aimais ce côté un peu circulation d'un personnage presque un peu anonyme qui s'effaçait presque un petit peu dans la foule. Et j'ai retrouvé un peu ça dans le reste de son cinéma, dans Le Beau Plateforme par exemple, film très ambitieux.
Mais c'est marrant parce que ce que tu racontes, j'ai l'impression que ça vaut aussi pour A Touch of Steel,
Voilà,
en fait.
j'allais dire la même
C'est
chose.
exactement les termes que tu as employés. Prendre un personnage lambda confronté à la violence du monde, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans A Touch of Steel, finalement. Et qui traverse effectivement toute sa filmographie. Ouais.
Bah, pour moi, Touch of Sin se rattache effectivement au reste de sa filmo par ce souci de l'individu, ce souci de la singularité, de l'individu, du destin d'un personnage confronté effectivement à la violence d'un système. Ces personnages ont toujours d'une manière ou d'une autre pris des coups, que ce soit au sens propre comme, voilà, comme symbolique. Cette fois-ci, il a décidé de leur donner la possibilité de réagir. Et en ce sens, pourquoi pas? Il y a quelque chose sans doute de cathartique, aussi bien pour lui que pour ses personnages. Maintenant, voilà, ce qui m'avait intéressé jusqu'ici dans son cinéma, c'était quand même le côté. Il y avait une juste distance. Il y avait une juste distance. Il y avait une manière de laisser. De laisser ces personnages, on va dire, vaquer. Voilà, il y avait une forme de vacance dans son cinéma, de disponibilité du plan, à leurs égarements, qui faisait que moi, je me laissais très facilement prendre, aussi bien dans des films très longs, donc comme Plateforme, qui est peut-être même mon préféré, où pendant quoi, une dizaine d'années, je crois, voire plus, on accompagne une troupe, voilà quoi, de son évolution. Avec certains personnages qui disparaissent en cours de route. Voilà, on est en train de voir l'histoire de la Chine en train de se créer en direct, tout en essayant de ne pas perdre de vue une poignée de personnages. Et voilà, pour moi, Jiazhen Keh à son meilleur, c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est ce qui est aussi passionnant dans son travail de documentariste, aussi bien dans un film comme Useless, où il montrait un peu la fabrication en cours, c'est ça, de vêtements? Je n'ai pas souvenir précis, mais
Exactement, ouais.
voilà. Et voilà. Et il s'est toujours intéressé à toutes les couches, justement, d'une industrie. 24 City était intéressant aussi par. Il y avait déjà un côté un petit peu, je dirais pas arty, mais un côté coup de force artistique, dans le sens où l'entremêlement du documentaire et de la fiction était assez net, quand même, était assez clair. C'est-à-dire qu'il fondait les deux régimes. De manière assez visible, mais ça faisait aussi en même temps le charme du dispositif. Voir des personnages en train de parler face caméra, des acteurs pour la plupart, je crois.
Ouais,
Voilà.
j'ai toujours un doute. J'ai pensé un moment qu'il s'agissait à moitié d'acteurs et à moitié de véritables intervenants.
Oui.
Il me semble finalement qu'il ne s'agit que d'acteurs.
Que d'acteurs qui récitent le vécu
de plusieurs
de
personnages.
plusieurs
Ouais,
personnages,
tout est
voilà.
complètement écrit et la partie documentaire est un travail de recherche finalement dans 24 City. Ouais.
Ouais. Et il y avait, voilà, je l'aime quand il plane, je l'aime quand il plane, aussi bien quand il plane dans le côté purement, on va dire, basinien du cinéma, le côté enregistrement, mais aussi dans le côté un peu superficiel, disons, dans sa manière de filmer les images d'aujourd'hui, de filmer des images de portable, des images. De néon, un petit peu, voilà quoi. Je trouve que c'est un cinéaste qui a saisi un peu mieux que personne ces dernières années ce qu'était le monde en train de se faire, ce qu'était le capitalisme, ce qu'était la mondialisation.
Mais je comprends effectivement depuis ses premiers films où il y a un espace de liberté beaucoup plus grand qui est fait au plan, beaucoup de vacances aussi dans Plateforme. Je sais qu'il a respiré des plans pendant 4-5 minutes. Il filme en plan fixe et des plans séquences très lents, très longs, ce qui fait plus dans A Touch of Sin. C'est vrai qu'il y a un plan extrêmement construit. Il peut pas dans la construction du film, il peut pas se permettre la même forme de respiration qu'il y avait à ses débuts, c'est-à-dire reconstruire un plan et puis le laisser respirer pendant 5 minutes. Ça, on l'a plus du tout dans A Touch of Sin. Cependant, j'ai l'impression qu'on trouve dans cette construction, et à mon avis qui vient plus du film de genre, des moments de respiration parce qu'il va filmer dans la rue. Enfin, il filme en décor réel. Je suis pas sûr que quand on voit l'intérieur d'une usine, ce soit des figurants. Alors ça, faudrait vérifier, mais il me semble qu'il y a encore cette attache au réel,
dans un écran fictionnel qui est beaucoup plus resserré, effectivement, dans Touch of Cinema. Mais j'ai aussi l'impression que c'est la direction que prend son cinéma, quasiment depuis Still Life, où il avait fait Dong en même temps. Donc il avait fait un documentaire d'un côté sur un artiste, et il était allé filmer La Vallée des Trois Gorges de l'autre. Dans Still Life, il y a beaucoup de moments d'espace où il va filmer des gens sur un bateau, il va filmer des simples anonymes. Mais en même temps, il commence à introduire des éléments de fiction qui sont extrêmement maîtrisés. Enfin, il va amener deux personnages de fiction sur les lieux, sur des lieux d'un documentaire. Il y a une fin qui part complètement du réalisme, avec un espèce de vaisseau qui décolle, il me semble, dans le dernier plan. Et j'ai l'impression que son cinéma est dans 24 City, où il est dans la fusion totale du documentaire et de la fiction, va de plus en plus vers cette, en tout cas, cette manipulation très cadrée du réel. Moi, ce que tu dis sur A Touch of Sin, je l'ai ressenti sur son précédent I Wish I Knew, Histoire de
Que j'ai
Shanghai.
pas vu.
Alors, I Wish I Knew, Histoire de Shanghai m'avait un petit peu déçu parce qu'il y avait déjà ce caractère un peu répétitif par rapport à 24 City, où il reprenait cette idée d'avoir des témoignages qui racontaient cette fois-ci l'histoire de Shanghai des années 30 à nos jours. Mais en tout cas, il refaisait un film sur la parole tel qu'il l'avait déjà fait, tel qu'il l'avait déjà fait auparavant. Il y avait aussi ce que tu reproches d'ailleurs à Touch of Sin. Ce côté très esthétique, très exercice de style qui m'avait semblé être plus présent dans I Wish I Knew. Donc c'est peut-être une direction que prend son cinéma. Après, là où A Touch of Sin m'a rassuré, c'est que I Wish I Knew, Histoire de Shanghai est un film très doux, finalement, où il n'y a pas du tout la verve et l'aspect critique qu'il peut y avoir dans tous ces autres films, où on a l'impression qu'il est rentré un peu dans le rang. Moi, j'avais un peu peur de ça en voyant son avant-dernier film, du fait que depuis The Ward, on sait qu'il fait des films qui passent la commission de censure chinoise, donc ils sont distribués en Chine, donc ils présentent aussi ces scénarios. Bon, après, le bureau de commission semble être complètement kafkaïen, donc on ne sait pas pourquoi certains films passent, pourquoi d'autres non, mais en tout cas, voilà, il semblait plus entrer dans le système, pas avec The Ward et les suivants, mais en tout cas avec I Wish I Knew, Histoire de Shanghai, dans lequel il y avait de l'argent de l'État aussi d'ailleurs, donc ça faisait un peu plus film de commande. Et là justement, ce qui m'a plu dans Touch of Sin, c'est qu'il retrouvait cette force critique qui me semblait un peu avoir perdu, tout en utilisant la force esthétique et cette maîtrise totale formelle qu'il a pu avoir, en tout cas qu'il développe depuis Still Life. Donc ça m'a beaucoup moins gêné là, voilà, le fait que tout soit parfaitement cadré, parfaitement maîtrisé. C'est même un truc, enfin, bon, quelque chose qui participe pour moi à l'architecture grandiose du film, en fait, cet aspect très, très millimétré, mais qui, dans cette description du réel, laisse quand même respirer, non, pas respirer, mais laisse une petite place au réel. Bon, en tout cas, une grande place au réel, parce qu'on le voit quand il filme des figurants, on le voit dans l'arrière-fond, et donc ça me semble encore présent dans son cinéma.
Ouais, donc tu penses que finalement le réalisateur de ce dernier Touch of Sin reste quand même celui qu'on a pu aimer dans un plateforme ou dans son tout premier film. Enfin, tu trouves que. Enfin, tu trouves
C'est une évolution logique en fait, de son cinéma.
Ouais, il y a une évolution assez incontestable et
il y a
c'est
une
vrai que.
vraie
Ouais.
continuité. Enfin, c'est un bloc, j'ai l'impression,
Ouais.
sa filmographie.
Oui, enfin, tu veux dire quelque chose, Jérémy?
Bah non, mais juste que ouais, moi je trouve ça logique. Et comme tu le disais, Victor, je trouve qu'il retrouve une certaine, voilà, une certaine force et un côté un peu militant qu'on pouvait penser que ça allait un petit peu s'éteindre avec le comité de censure, etc. Donc je trouve que l'évolution est belle et on a qu'une envie, c'est voir où il va aller, où son cinéma va aller. Et je trouve que ça va être passionnant quoi, dans les prochaines années.
Et vous pensez que ce film-là est le point de départ de donc d'une nouvelle ère
Ça me semble. En tout cas, je crois qu'il a fini avec Yu Shenyu, Histoire de Shanghai. Il est possible qu'il y revienne, hein, j'en sais rien, je suis pas devin non plus. Mais voilà, en tout cas, qu'il a clos un chapitre consacré à la parole. Et que là, son but, c'est de filmer la Chine actuelle, à mon sens, à travers le cinéma de genre. À mon avis, ses prochains projets se passent dans le Shanghai de 1900, des années 20. Il a des adaptations de Wuxia en tête. Je pense qu'il va continuer à travailler le film de genre pour décrire la Chine d'aujourd'hui. Après, c'est amusant parce qu'il s'est énormément opposé à Zhang Yimou, notamment à la période de Hiro, et enfin voilà, qui déteste. C'était celui d'après La Cité Interdite, voilà. Et c'est vrai qu'il avait fait un petit duel avec Zhang Yimou à l'époque de La Cité Interdite. Hein. Il avait voulu sortir Still Life le même jour que le film de Zhang Yimou, qui était l'énorme blockbuster chinois dont toutes les télés
parlaient. Voilà l'exemple d'un film purement esthétique et purement exercice de style où il y a le fond est quasiment inexistant. Et c'est de la carte postale, et c'est du consensuel et c'est du film historique entre guillemets où tu apprends l'histoire de la Chine. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec le cinéma de genre militant avec A Touch of Sin. Donc c'est vraiment l'exemple parfait, quoi. De Zhang Yimou, c'est l'exemple parfait.
Et je pense qu'il est toujours, même s'il fait un cinéma de genre, dans cette opposition avec ce que lui appelle le cinéma de pur divertissement, en fait. Et c'est comme ça que Zhang Yimou se justifie à l'époque en disant, ça il l'explique dans son livre, qu'il fait du cinéma de divertissement, et donc il n'a pas de justification artistique à donner. Et au contraire, je pense qu'en utilisant le genre de cette manière, il continue à faire autre chose que du divertissement. Quoi. J'ai pas le livre sous les yeux, je voulais citer une citation justement quand il parlait de Zhang Yimou. En tout cas, il disait que la manière dont il se défendait, c'était qu'à l'époque de La Cité Interdite, Zhang Yimou expliquait que pour lutter contre Hollywood, il était obligé de faire ce genre de film de divertissement pour que les gens aillent au cinéma. Et ce que Jason Kay lui répondait, c'était qu'il trouvait ça un peu trop énorme. Et la phrase qu'il avait, c'était, il lui a dit, tu penses vraiment qu'on arrête de faire des films, le cinéma chinois va disparaître. c'est assez marrant.
C'est un peu l'obsession chinoise actuelle de vouloir à tout prix rivaliser avec Hollywood. Et on voit toutes les énormes productions chinoises, voilà, les Détectives D ou les choses comme ça, les grands films à costume. Où vraiment voilà, ils tentent de rivaliser, mais où les films sont des produits, quoi. Et c'est très vide.
Et c'est dur de faire autre chose. Hein. Enfin, pour le coup, il y a une autre proposition dans le cinéma de genre, mais on voit que.
C'est un peu barré, la route est un peu.
Wong Kar-wai n'arrive pas vraiment.
Ils s'en sortent pas, non. Ils sont dans la logique du Zhang Yimou, quoi. C'est du cinéma de divertissement pour contenter la masse. Et,
Donc, Jason Kay se réapproprierait certains codes de ce cinéma de divertissement, mais d'un point de vue strictement critique, c'est ça?
Alors, je pense qu'il le considère pas uniquement comme un cinéma de divertissement, justement. En tout cas, il va pas se justifier, comme ça. La grosse référence du film, c'est Kim Woo, qui avait des ambitions, c'est A Touch of Sin, A Touch of Zen, qui avait des ambitions esthétiques et philosophiques, on va dire, dans ce film, qui étaient très marquées. Je pense qu'il est plutôt dans cette mouvance-là, de faire, peu importe que ce soit du cinéma de divertissement, mais en tout cas ne pas prendre le terme comme une excuse pour une paresse esthétique et ne rien dire d'autre, quoi.
C'est un peu son geste de rébellion face à toute une classe de cinéastes qui ont mis leurs pantoufles et qui se mettent à l'aise avec le parti, quoi, en quelque sorte, voilà. Et il veut essayer de montrer qu'il est capable de faire des films, des films de genre, des films. Voilà, il va faire son Wuxia, il a fait avec A Touch of Sin, un vrai film de genre, où il y a des choses à dire, où ce n'est pas. Voilà, on ne justifie pas la paresse en disant ouais, mais le cinéma c'est fait pour s'amuser, moi je veux faire du cinéma de divertissement. Non, lui il y va, il fait son film de genre, et pour autant il continue de réfléchir sur la Chine, il continue de questionner, il continue de se rebeller en quelque sorte, quoi. Et ces gestes-là, c'est assez beau, quoi.
Mais il y a un côté, effectivement, il y a un côté dans cette extrême lucidité. Il y a un côté, c'est comme ça. Je vais vous exposer quelque chose. Je vais vous exposer quelque chose que d'autres cinéastes de mon pays ne montreront sans doute pas. Et que d'autres cinéastes parmi mes contemporains ne montreront sans doute pas. En tout cas, pas comme ça. La frontalité, par exemple, du suicide du jeune homme dans ce Touch of Sin est effectivement impressionnante. Mais il y a quelque chose dans ce cadrage qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est justement que c'est trop cadré. Il y a quelque chose de l'ordre du « je vais vous exposer de la manière la plus directe, la plus claire, cette fatalité, cette espèce d'état des lieux, cette espèce d'état du monde. » Et finalement, j'ai l'impression que... Je crois que ce qui me dérange, moi, un petit peu dans le cinéma, c'est quand l'artiste a envie de se poser comme grand observateur. Voilà. Moi, j'ai besoin qu'on me laisse la possibilité aussi de trouver ma propre place. On parlait d'interrogation à un moment au début du débat, et ce film ne m'a pas aidé à m'interroger véritablement. Il me montre les choses telles qu'elles se font, effectivement, telles qu'elles se réalisent, et il n'y a jamais de véritable doute quant à l'effectivité de ces choses. Que ça soit...
Ça n'empêche pas de t'interroger après sur le pourquoi, sur le comment, sur... Je veux dire, effectivement, il pose quelque chose, mais je trouve que pour moi, ça ouvre une réflexion. Je veux dire, effectivement, on se demande pas pourquoi il fait telle ou telle chose, mais ça n'empêche pas de réfléchir à l'avenir de la Chine, à ce qui s'y passe actuellement et aux soucis de l'époque actuelle. Pour moi, ce film provoque beaucoup de questionnements. Il suffit de voir, avec Victor et Jérémy, on est en train de faire des papiers brassant chacun une thématique du film. Ça prouve bien que ça provoque quand même certaines réflexions bien précises. Et je pense qu'on en est, loin d'en avoir fait le tour.
Je pense que ça a toujours été un cinéaste très théorique, finalement. Enfin, dès ses premiers films, quand il faisait durer le plan dans Plateforme ou dans son premier film, Zhao Yu, Artisan Pickpocket, c'était aussi pour montrer quelque chose que ne montraient pas les cinéastes chinois contemporains. Enfin, pour Jia Zhongke, il ne faisait pas durer un plan pour faire respirer l'image, pour faire respirer le cadrage. J'ai montré un plan pour montrer la réalité à un certain moment tel qu'il l'a ressenté et tel que personne d'autre ne l'a montré. Donc la durée du plan était aussi théorique qu'à mon sens le dernier plan de A Touch of Sin, qui a double tranchant, parce qu'effectivement il y a ce côté grand observateur, et voilà, il y a cette fatalité qui est là. Mais cette fatalité est aussi celle du personnage qui à ce moment-là, ne voit pas d'autre échappatoire que de celle de sauter. Donc il va construire son plan pour à la fois observer cela et pour montrer l'état d'esprit du personnage.
Enfin, le dernier plan du film, c'est quand même cette chorale. Quoi, on voit le spectacle et Jia Zhongke tourne sa caméra et met le peuple chinois face à ses responsabilités en quelque sorte, quoi. C'est ça le plan final, quoi. Il nous montre ce peuple et qui dit bon bah et puis voilà et alors et après, quoi. Il interroge grandement, quoi, et il met le peuple face à ses responsabilités, quoi. Bon, ça fait un peu donneur de leçons comme ça, mais il y en a pas beaucoup qui montrent cette réalité en Chine et qui questionne directement le peuple en leur disant bah voilà, vous en faites quoi de tout ce qui s'est passé là, pourquoi film, que vous allez faire, quoi.
C'est vrai que le film, donc là on spoil complètement, hein, si vous l'avez pas vu, c'est le dernier plan, et il revient sur Zhao Tao qui a trouvé une nouvelle identité et qui regarde une pièce de théâtre, et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce Jia Zhongke observateur du peuple anonyme chinois. Qui filme, il y a des gros plans, il me semble, sur cette foule, sur des gens. Donc on retrouve cet observateur, mais on pointillé, enfin, pas l'observateur grandiloquent, donneur de leçons et théoricien sur cette fin. Et avec, quand même, quand tu disais que c'était pessimiste, Sidi, en revenant sur cette fin, il y a cette possibilité d'avoir une deuxième chance. Enfin, le personnage de Zhao Tao, opère une mue, enfin, elle est associée à l'image du serpent dans le film, elle opère une mue et elle a le droit à une deuxième vie. Le film se termine quand même là-dessus, enfin, sur l'interrogation dont tu parles, Jérémy. bon bah ok, tout ça qui s'est passé, maintenant qu'est-ce qu'on va faire quoi? Enfin, et son visage est alors elle pleure, il
Elle
me
pleure,
semble,
ouais, je crois.
mais il y a quand même cette idée qu'une voilà qu'une deuxième vie et une interrogation sur une seconde chance, enfin, est possible.
On a l'impression qu'il a quand même envie oui, de laisser quand même une ouverture, après tout ce qu'il a montré, d'au moins sauver un personnage. Enfin oui, la résonance entre l'histoire chantée et ce que manifestement ressent le personnage de Zhao Tao à l'écoute de ce chant, a quelque chose effectivement d'assez poétique, on peut dire ça. Enfin, il y a une forme, voilà quoi. Donc voilà, oui, En fait, voilà, ce film, je ne le déteste pas. Hein. Je vais être vraiment très clair. Je l'ai
C'est ça qui fait
vu.
le débat détesté.
Voilà, je le déteste pas. Je l'ai vu une fois. J'irai sans doute le revoir. Sincèrement, je doute de l'adorer. Mais voilà, c'est. Vous me donnez envie, en tout cas, de le revoir peut-être avec un petit peu plus Comment on va dire? Peut-être que j'en attendais quelque chose d'un petit peu plus subtil avant d'aller le voir au vu de mon passif avec ce cinéma, qui fait que tout ce qui m'a été montré, tout ce qui m'a été donné d'un coup de manière assez brute, a provoqué chez moi une forme de recul. J'ai eu besoin de m'extérioriser par rapport à ça. Et je ne m'attendais sans doute pas à avoir cette posture-là par rapport à ce cinéma-là. Je vais vous prendre un exemple très clair. Après qu'il ait massacré deux, trois personnages dans le premier sketch, et qu'il va trouver le Big Boss, hein, c'est ça, et que le Big Boss essaye de le convaincre de ne pas le tuer. Il y a un mouvement de caméra entre celui qui tient l'arme et celui qui est en train de le supplier, etc. Au début de notre débat, je parlais de positionnement. À ce moment-là, voilà, comme spectateur, je me dis, ce mouvement de caméra, qu'est-ce que c'est exactement? Où est-ce que moi je me place? C'est-à-dire que, est-ce que je dois espérer que le personnage finalement ait un léger recul d'une certaine manière? Ou est-ce que Enfin voilà, j'ai un problème par rapport à ça de. Même si son patron est quelque part assez monstrueux au vu de ce qu'il lui a fait au début, on parlait au début de la jouissance de voir le personnage aller jusqu'au bout de son processus un peu expiatoire. Moi, en tant que spectateur et peut-être en tant qu'homme, ça va être un peu bateau de dire ça, mais j'ai envie de dire non, je ne veux pas me situer par rapport à ce genre d'image. Je ne sais pas où me placer en tant que spectateur. Ça me dérange profondément. Alors que dans le sketch de Zhao Tao, il y a quelque chose peut-être de plus fort, c'est-à-dire que. Et encore. On est le 13, donc le film est sorti il y a 2 jours. Je crois que voilà, la plupart de nos auditeurs l'ont vu, n'est-ce
Oui.
pas? Que fait la future victime de Zhao Tao? Elle insiste. Une première fois, une deuxième fois, etc. Zhao Tao, à la base, n'est pas voué à péter un plomb, contrairement à son prédécesseur. Et puis à un moment, elle commence à se faire malmener, mais vraiment physiquement. Au début, c'était un harcèlement par les mots, et puis ça devient physique. Paf, 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 paf. À ce moment-là, on se dit, voilà, elle est en train vraiment de subir quelque chose d'inacceptable. Elle lui rend cette violence, elle le lui rend. Mais j'ai l'impression qu'il y a une joie de la part de Jason Kay dans cette manière de montrer la plaie en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose. Et je crois qu'il y avait quelques rires dans la salle, et moi, ce rire, j'ai eu peut-être un rictus en voyant ça, mais ce rire m'a profondément gêné en tant que spectateur. Je suis totalement convaincu par tout ce que vous avez dit, mais en tant que spectateur, c'est le genre de dispositif que je refuse.
Je pense que le rire est gêné, en fait, quoi. Le spectateur, il est mal à l'aise avec ce qu'il voit, et forcément, voilà, ça provoque le rire. Mais je pense que c'est vraiment une volonté de, quoi. Je pense que la scène a dérangé, quoi. Les rires, c'est ça. Ils étaient
Ah bah, à
vraiment.
aucun moment j'ai ressenti du fun ou de l'amusement
Ah non,
face
non,
à
mais
cette
la scène n'est pas fun, mais
scène-là.
c'est la, voilà, c'est le mouvement de défense basique du mec qui est au ciné et qui voit un truc qui le gêne profondément. Et qui n'a comme solution de rire, quoi.
Mais
Voilà.
pourquoi montrer de cette manière le résultat de l'acte du
En fait, ça
personnage?
nous renvoie à la scène du cheval. Voilà, ça nous renvoie à la scène du cheval qui se fait cravacher sans arrêt et qui est à bout de force, quoi. C'est la condition de la femme. C'est avec leur argent, ils leur tapent dessus. C'est pas subtil pour un sou, mais c'est le cas de le dire. Mais c'est fort, quoi.
Je pense que
Et c'est dérangeant.
le positionnement en plus
à la fois de Jason Kuhn quand je disais qu'il avait un regard, je vais me contredire, mais bon, c'est pas grave, comme ça j'ai une autre lecture du film. Je disais qu'il avait un regard neutre, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'on n'a pas du tout le même positionnement par rapport au personnage de Zhao Tao, ne serait-ce que parce qu'elle a le droit à une forme de rédemption. Y a dans la pièce qu'il regarde, il y a une question de. Faudrait que je vérifie quelle pièce c'est, donc je vais pas le dire là, mais je crois que j'en parle dans mon article. Donc c'est. Une forme de rédemption, elle est jugée innocente et elle peut continuer à vivre. Donc, le spectateur, dans cette scène, est forcément du côté de Zhao Tao. On attend à ce que cette femme se révolte, d'autant qu'on a vu les explosions de violence. Dans la première scène dont tu parles, le mouvement de caméra qui va de la future victime au personnage principal a pas du tout la même signification. On se dit pas vas-y tue-le,
c'est
stylistique, et c'est peut-être l'hésitation du personnage lui-même, est-ce que moi je peux aller jusqu'au bout de l'acte que je suis en train de faire, et finalement le spectateur ressent enfin moi j'ai ressenti l'interrogation du personnage, mais moi je me suis pas dit soit vas-y va au bout soit arrête, enfin je me suis pas du tout posé dans cette optique là, j'attendais de voir ce qui allait se passer, mais en tout cas, j'avais pas un positionnement on va dire, de jugement par rapport au spectateur, demander du sang ou à ne pas vouloir du sang, justement. Le personnage de Zhao Tao, c'est un peu différent, et parce que on est beaucoup plus de son côté à ce moment-là, par rapport au fait qu'on voit que c'est un personnage rationnel. Depuis le début, on est peut-être un peu plus attaché, et de par sa situation, on attend à ce moment-là à ce qu'elle se défende, quoi. Donc j'avais pas un soulagement, mais en tout cas, oui, là, on est plus clairement de son côté. C'est pas un positionnement moral en termes cinématographiques, qui me gêne plus que ça, je dirais. Enfin,
c'est quand même une femme qui se fait maltraiter, quoi. Voilà, c'est bateau aussi de dire ça, mais c'est dur, on a envie... Quand on la voit se prendre des coups, on a envie qu'elle bouge, quoi.
Des coups de billet en plus. Hein,
des coups de billet, voilà. À coups d'argent, le mec. Pute, voilà, le mec à coups d'argent qui la tape, et on a envie qu'elle fasse quelque chose, qu'il se passe quelque chose au moins, quoi. Et il insiste là-dessus pour qu'on ait envie de que ça explose, quoi, en quelque sorte, et que la femme sorte de sa condition, en quelque sorte.
Et après, c'est aussi effectivement, il y a ce côté métaphorique avec le. Voilà, les femmes qui sont exploitées en Chine par des truands qui ont de l'argent. Et finalement, il dit, voilà, s'il y a une révolte, elle peut être légitime à ce moment-là. Bon, donc je contredis complètement ce que j'ai dit au début, mais c'est pour ça que
cinématographiquement... Là, il y a un vrai positionnement, quoi. Sur le segment Zhao Tao, il y a vraiment un vrai positionnement.
On ne laisse pas beaucoup parler, Yannick.
Oui, je crois que tu voulais...
Non, mais pour l'instant, moi, j'écoute. Hein.
J'ai vraiment envie d'être l'emmerdeur absolu. Et
on ne fera pas de débat contradictoire, alors
allons-y à fond.
D'habitude, c'est mon rôle, donc
je vais l'assumer exceptionnellement. Donc oui, je voulais parler de ce qui est pour moi, de toute manière, le plus beau sketch des quatre. Enfin, sketch. Le plus beau fragment, celui qui m'a touché le plus. Avec cette jeune femme, effectivement, qui... parvient à retourner la bêtise et la violence de cet horrible client contre lui. Quand tu la vois marcher dans la nuit, la tenue totalement ensanglantée, j'ai l'impression que... c'est vraiment, je suis peut-être totalement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que cette image-là de cette femme ensanglantée, marchant dans la nuit, elle résume à peu près tout l'état d'esprit de Jason Kay sur ce film. J'ai envie de faire cette image-là. Il y a un côté, je vais faire de l'esthétisme. C'est peut-être ce qui me dérange aussi avec le plan du suicide. C'est peut-être ce qui me dérange ainsi avec ce mouvement de caméra. C'est ce sentiment qu'il a envie, effectivement, de s'essayer un petit peu au film de genre, de sortir un petit peu du canevas, enfin du centre un peu réaliste, documentaire. Et j'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'autosatisfaction de la part du cinéaste à se faire des belles petites images un peu marquantes. Voilà.
On a préféré qu'il filme comme un pied, en fait.
Non, c'est du sang, mais aussi c'est du rouge aussi. On va un peu jouer Godard, mais c'est ça. Il a envie de filmer du rouge sur la tenue d'une femme. Il a envie de filmer cette femme un peu souillée. À défaut d'être souillée de sperme, elle est souillée de sang de ce vil personnage. Et elle marche dans la rue comme ça, et il a fait sa belle image. Qui nous montre cette femme qui a effectivement commis l'irréparable, mais en même temps, c'est pas totalement de sa faute. Mais Mais quelque part, je me demande s'il s'en fout pas un petit peu tant qu'il a réussi à faire son spectacle.
Je crois justement.
Mais tu reviens aussi beaucoup sur le suicide et sur la manière dont il est cadré. Donc, comme si ça te gênait que le suicide était bien filmé. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Mais est-ce qu'on peut filmer le suicide déjà? Enfin, est-ce que.
Pourquoi on pourrait pas?
Il y a un film qui m'avait désespéré il y a 2-3 ans. C'était un film de Jean-Paul Silvera qui s'appelait Les filles en noir, qui orchestrait le suicide à venir de deux adolescentes. Et la scène qui précédait le voilà, je ne vous conseille pas de le voir pour autant. La scène qui précédait le suicide de la première adolescente nous la montrait le soir de ce fameux suicide en train de parler avec sa copine, etc. Et donc elle commet l'acte. Elle est au téléphone avec sa meilleure amie, elle commet l'acte, elle saute par la fenêtre. Et après, il y a un magnifique plan qui nous montre le cadavre par terre comme ça. Et moi, cette espèce d'embellissement, cette espèce d'esthétisation du cadavre de cette fille qui a commis cet acte-là, ça me dérange. Je pense que le suicide est quelque chose de même dans le cadre d'un pur film de cinéma spectaculaire, je pense que c'est quelque chose.
Il est choquant, le suicide de la dernière fille.
Moi, je l'ai trouvé super traumatisant comme scène. Hein.
Enfin, là, il y a une esthétisation.
Encore, j'aime soigné, pas trop son... quoi. Il a soigné son plan, mais
il cadre quoi.
Il cadre, mais la scène est horrible.
Il a juste envie de nous calmer.
Quoi. Le sol, moi, je l'ai ressenti dans les.
Ah oui.
Trucs, quoi.
Non, mais c'est ça. Et en fait, toi, tu penses que c'est juste un plaisir malsain à esthétiser, voilà, Zhao Tao qui marche en sang dans la rue et l'autre qui se suicide. Et pour toi, c'est juste un malin plaisir en fait, quoi.
Mais... Ouais.
Ouais, non, là je suis pas d'accord.
Alors, Yannick, il va péter un plomb.
Non, je vais pas péter un plomb, mais autant pour la femme en sang, je pourrais,
c'est symbolique,
je pourrais
ça,
rejoindre
en même temps,
la réflexion. Autant pour moi le suicide, c'est vraiment une des scènes les plus choquantes à mon sens du film. C'est ce personnage pathétique qui passe tout le film à fuir. À fuir et qui finalement, après s'être fait engueuler par sa mère, après avoir encore une fois quitté son boulot, après avoir été confronté à une saloperie qu'il a fait involontairement avant, bon bah voilà, il en peut plus, il saute par la fenêtre et à aucun moment dans cette scène-là, je me suis dit waouh, c'est beau. Je veux dire, le corps qui atterrit sur le sol, ça m'a fait mal jusqu'au tréfonds de l'âme, ça m'a vraiment remué quoi. Et à aucun moment j'ai trouvé le suicide beau. Au contraire, je rejoins ce que tu penses du suicide. C'est quelque chose d'atroce et ça doit pas être filmé de manière esthétique. Mais à aucun moment j'ai ressenti une beauté. J'ai vraiment été frappé, été choqué par cette scène.
Moi, je trouve qu'il cadre quoi. Il faut bien qu'il est obligé de le montrer en fait, ce suicide-là, parce que c'est la suite logique de tout ce qu'on a vu avant et c'est la. Voilà, c'est quand une fois une logique de tragédie et il ne peut pas ne pas le montrer et je trouve qu'il voilà, il pose sa caméra et j'ai pas l'impression qu'il s'amuse beaucoup quoi.
Voilà, il allait pas la secouer dans tous les sens pour dire
il fait une shaky cam à la Paul Greengrass quoi. Non mais
c'est vrai que sur le suicide je te rejoins. Bon alors pas du tout effectivement, et le suicide est, cette scène est cadrée de manière signifiante. Et ça, on en a déjà parlé. Après, justement, je ne trouve pas qu'il y ait une esthétisation du tout de la mort de ce personnage. Je pense que s'il avait fait un gros plan sur la cervelle éclatée, après, tu aurais dit la même chose, ça aurait été dégueulasse, mais on aurait pu lui reprocher, justement, dans cette optique-là. Par contre, pour le plan sur Zhao Tao, c'est vrai qu'il y a quelque chose sur lequel je te rejoins un peu plus, hein. Mais qui, à mon avis, n'est pas dû au plaisir de souiller le personnage, puisqu'on a vu que... sinon, il se mettrait dans la position du mec qu'elle tue, en gros, qui condamne très, très fortement. Mais il y a plus là un plaisir à jouer avec les archétypes du film de genre. Et c'est des plans, tout comme le plan dans le premier sketch du mec qui prend le fusil et qui part, ou du mec qui est sur sa moto ou qui est sur un cheval dans les Wuxia et qui, avec un sabre, arrive à défaire, enfin à tuer sans bouger quatre guerriers, quatre brigands qui l'accostent sur le chemin. Cette personne, cette stylisation du personnage ensanglanté qui part dans la nuit, Enfin voilà, l'héroïne solitaire qui a accompli sa vengeance et qui part, c'est vraiment une figure du film de genre. Et je pense que là, il y a plus un plaisir à filmer cet archétype-là plutôt qu'à filmer la dégradation du personnage.
Oui,
Donc le plaisir est dans le rapport au genre, à
il
mon
filme,
avis.
Il filme l'errance, voilà, l'errance du personnage de nuit. Ouais, c'est son petit plaisir un peu, voilà, comme Michael Mann il fait dans Collateral ou. C'est des choses, voilà, il prend son petit plaisir, mais c'est pas dans une volonté de souiller le personnage. Ou, je pense que c'est purement pour faire, pour,
D'esthétisation plutôt.
voilà, c'est une esthétisation, mais pour faire son film de genre, quoi. C'est pas, il veut pas souiller le personnage en lui-même, quoi.
Mais moi, je
Oui, et
trouve.
puis c'était important aussi de la filmer en train de s'en aller dans la nuit, et donc fallait bien aussi l'asperger de sang, parce que vu qu'elle venait de trucider deux mecs à coups de couteau, si elle s'en sortait sans aucune éclaboussure, ça
C'est
irait pas,
ça.
quoi.
Non, puis c'est le chemin logique du personnage aussi, parce que c'est une histoire d'une. Voilà, elle renaît à la fin en quelque sorte, et c'est son parcours un peu
Il y a
combattant, quoi.
un serpent aussi qui traverse
Voilà,
la
c'est
route
ça. C'est sa
à
mue
ce moment-là.
c'est
Donc
sa mue qui se poursuit.
on est dans la. Effectivement, dans la métaphore du
Voilà.
changement du changement de peau, il y a une référence à Green Snake qui est fait. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon dossier sur les figures des animaux dans le Touch of Cinema, qui est juste à côté.
Non, puis le fait que ça se passe la nuit, voilà, c'est la nuit, c'est la fin d'un cycle. Puis après, quand le jour se lèvera, bah, elle recommencera. Voilà.
Une nouvelle vie.
Voilà, bah.
Je voudrais juste préciser une chose. Je ne suis absolument pas contre le sang au cinéma. Hein. C'est-à-dire que j'adore Kill Bill, notamment le volume 1, dans lequel il y a des jets d'hémoglobine, des
Il
geysers.
fait ses Tarantino pourtant, enfin,
Et
il
oui,
assume
on.
son personnage ensanglanté qui part dans la nuit. Pas dans la nuit,
C'est
mais
vrai
dans
que
la.
là, en t'écoutant, on a un peu l'impression que t'es une petite nature qui a un peu peur des giclées de
Je
sang,
suis
hein, quand
quelqu'un
même.
de très sensible, effectivement, mais c'est vrai que ce que j'aime, pourquoi est-ce que je jouis en voyant de la violence extrême et finalement très absurde dans Kill Bill, c'est peut-être justement parce que Tarantino assume totalement le fait d'être dans du pur cinéma, dans quelque chose de cartoonesque, là où, par exemple, même lorsque le personnage de la mariée est malmenée dans Kill Bill, elle est supposée être un peu un personnage, c'est une héroïne, c'est une fille qui va se dépasser en repensant aux leçons qu'elle a reçues de son maître chinois, entre autres choses, c'est une fille qui manie le sabre comme personne. Donc moi, ça ne me dérange pas de voir des femmes souillées de sang, ça ne me dérange pas de voir de l'extrême violence, une cervelle coupée ou des choses comme ça. Mais le problème avec Touch of Sin, c'est cette vocation, on va dire sociologique, cette vocation
Oui,
politique.
mais il y a les deux.
Voilà, c'est
Finalement, c'est
ça.
le sang de manière réaliste, en fait.
Non, mais dans Touch of Sin, le problème, c'est que sous ses atours sociologiques, comme disait Sidi, bah, pour lui, c'est ce côté, ouais, pour toi, c'est ce côté vraiment. Voilà, il justifie un peu, voilà, il nous fait un petit film social, mais en même temps, il prend son pied
Exactement,
en
voilà.
filmant le.
Donc, si je comprends bien, soit faut faire du social chiant, soit faut faire du film de genre ultra-violent. On peut pas mettre entre les deux, c'est bien ça?
Il faut trancher pour moi. Il est un peu
Bah,
entre
il a
deux
tranché
chaises.
quand
Pour moi, il
même.
est entre deux chaises. Pour moi, il est vraiment entre deux chaises. Pour moi, il aurait soit dû faire un film totalement excessif et limite faire de ces personnages, oui, des figures totalement abstraites et qui jouissent de manière totalement tarantinesque. Mais on va un peu le libérer de Tarantino de manière jasonkéenne. Mais de ce jasonké-là, presque un nouveau jasonké qui assume totalement ce côté mauvais garçon qui a envie de filmer frontalement des scènes excessives comme ça, et se délester totalement du côté démonstration
Mais
sur
oui,
une certaine réalité de la
ce
Chine
côté de
et du
Jason,
sort de ces pauvres personnes.
c'est ça. C'est que il parle de la Chine d'aujourd'hui. Il parle de la Chine sociale d'aujourd'hui. Donc finalement, il fait exactement ça. Il fait un film de genre avec des archétypes du film de genre. Il fait un film cartoonesque, mais en même temps, en le faisant, il va pas faire du Tarantino. Il fait du Jasonke, et Jasonke, ça marque. C'est exactement ça. Et c'est un peu comme si tu lui demandais en fait dans 24 City. De choisir entre le documentaire et la fiction. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Enfin, c'est un cinéaste qui mélange quand même les pistes, le film de genre, le film réaliste. Et il y a cette idée quand même de prendre effectivement ces personnages de films de genre et de dire les héros de films de genre parlent aussi de personnages quotidiens qui existent dans le réel. Et c'est quelque chose qui existe depuis. Je parlais tout à l'heure du personnage de Still Life, dont le modèle était Sean Young Fat dans A Better Tomorrow. Et c'est un peu ce principe-là qu'il met sur tout un film, en fait. Ces héros des films de Kim Woo existent aujourd'hui en Chine, et voilà leur histoire.
Mais je veux dire, là, il y a quand même deux choses, moi, qui me font réagir. C'est que d'une part, le film de genre, ça a quand même depuis toujours eu vocation d'être aussi des films sociaux. Je veux dire, là, on n'arrête pas de citer Tarantino, mais bon, il suffit de prendre ne serait-ce que Romero, par exemple, qui n'a jamais conçu un film d'horreur, un film de genre sans une énorme dimension sociale. Et ils sont quand même très nombreux là-dedans. Donc,
c'est très bien
d'avoir du film de genre social. Et en plus de ça, moi, quelque part, je suis quand même content de voir un film qui n'arrive pas à rentrer dans une case, parce que les cases, finalement, c'est chiant.
Non, puis le film de genre, c'est l'écrin parfait pour parler de la société d'aujourd'hui, quoi. Comme tu dis, voilà. C'est... Et là, je trouve que vraiment, il arrive à allier les deux avec. Avec une force et une maestria, voilà, c'est impressionnant, quoi, vraiment.
Moi, je trouve que ça prend mal dans ce film-là, contrairement à 24 City, où il y avait vraiment une subtilité dans le dispositif qui faisait que, même si on arrivait quand même à distinguer le vrai du faux, il y avait quelque chose, je trouve... Il y avait une confusion, mais il y avait quelque chose en même temps, je trouve, de plus doux. Je trouve que la dureté ne va pas à son cinéma, c'est peut-être ça, en fait.
Puis on parle de Tarantino, mais Tarantino aussi, l'air de rien, a... Et passer quand même à. Voilà, son cinéma, c'est un petit peu. Voilà, il est plus sensible aux questions politiques, etc., depuis un certain moment.
Je trouve que c'est pas ce qui est arrivé de mieux à son cinéma.
Bah, moi, je trouve justement, c'est ce qui est arrivé de mieux à son cinéma, parce qu'il est passé, il est passé du pastiche, du pastiche à vraiment à un film, un vrai film politique. Django, c'est un vrai film politique, et il y a un vrai fond, pour une fois. Et voilà, on dit que c'est cinéma de la maturité, etc., mais je trouve que vraiment, d'apporter cette dimension sociale à son cinéma, cet ensemble, eh ben ça a amené vraiment une grande force à son propos. Et enfin, il a un propos, il a quelque chose à dire. Et je trouve que voilà, on peut comparer Django, par exemple, à A Touch of Sin, qui est un film de genre, mais qui est aussi un grand film politique. Et c'est vraiment, voilà.
Je trouve que la comparaison est très juste.
Donc en fait, Tarantino a eu la même trajectoire finalement que Jason Kuh, finalement. Pas dans leur cinéma, mais... Dans leur, ils sont sensibilisés un peu à cette symbiose un peu. Ils ont...
C'est un peu l'inverse. Jason Kuh a accepté le film de genre alors que Tarantino.
Oui, c'est la trajectoire inverse, c'est la trajectoire inverse, mais c'est le même résultat à la fin. C'est un tout, quoi. C'est un tout. Il y a le film social et il y a le film de genre et on peut pas, voilà, dans A Touch of Sin, on peut pas. Les deux sont complémentaires et les deux sont essentiels à la réussite du film.
Je sais pas, je pense qu'en tout cas on arrive à s'écouter assez et je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'aucun de nous ne changera totalement d'avis de toute manière.
T'as pas l'air convaincu, hein.
Quoi ? Non, mais voilà, de toute manière, je me suis engagé à aller revoir le film. Je sais pertinemment qu'il sera pas dans mon top 10, mais mais c'est vrai que j'aime bien vous entendre le défendre parce que vu que Jason Kay est quand même un cinéaste que j'ai beaucoup suivi pendant 10 ans. Voilà, je trouve que le raccord que vous faites entre ce dernier film et les précédents est quand même assez intéressant. Et voilà, quoi, si je fais abstraction de mon propre point de vue, je pense que ça ne peut que donner envie d'aller le voir pour les personnes qui nous écoutent. Donc voilà.
Bon, je crois que ça peut être un beau mot de la fin. On en fera un autre sur Jason Kuh à son prochain film. On fera la partie de Jason Kuh et moi à ce moment-là. Quant à Cannes, je propose qu'on en parle la prochaine fois quand on fera le bilan 2013 et on fera une partie sur l'Asie à Cannes et comme ça on parlera du Kore-eda qui sort le 25 décembre, le même jour qu'Albator. Exactement. Donc on parlera effectivement, on fera un petit bilan de l'Asie. Albator n'était pas à Cannes si c'était au marché du film. Mais donc on fera un petit bilan sur la présence asiatique. Ouais. À Cannes et donc l'influence, ce qui s'est passé toute cette année. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos lecteurs, Sidi ?
C'est toujours un plaisir de venir participer à ces podcasts. Je regrette de ne pas avoir été à celui de DBZ. Mais voilà,
tu as pu l'écouter ou...
Hein ? Oui, j'ai pu l'écouter et c'était très bien. Je ne pense pas que j'aurais pu dire des choses très intéressantes. Après, peut-être que pour ce podcast, la discussion a été un peu plus nerveuse et moins fluide que pour Aung San Suu. Enfin, j'ai un peu cette impression.
On était tous d'accord sur Aung San Suu finalement. On était trois.
Ouais, il y avait peut-être plus de consensus, ouais. Voilà. Mais je trouve que c'est, enfin voilà, c'était intéressant d'essayer de représenter mon propre point de vue et peut-être, j'espère que mon point de vue fera écho à d'autres personnes réservées sur le film, mais allez le voir de toute manière parce que Jason Key reste un cinéaste de toute manière au-dessus de la moyenne.
Voilà. Tu l'aimes, vous.
Je l'adore.
Jérémy, un dernier mot pour...
Bah, ouais, un grand plaisir d'avoir participé encore une fois et vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, bah, foncez au cinéma parce que c'est un gros chef-d'œuvre.
Yannick, dernier mot pour nos lecteurs et auditeurs.
Bah, moi, j'aurais aimé faire original, mais bon, je vais dire que j'ai passé encore un excellent moment avec vous. Et effectivement, Touch of Sin reste pour moi une flèche en plein cœur. Donc, ceux qui l'ont pas vu, faut vraiment pas rater la sortie de ce film, quoi. Qui sort en Belgique, je tiens à le préciser.
C'est la même date qu'en France, donc c'est le 11-1.
C'est le 11 aussi, oui.
Super, bon bah nos amis belges pourront se rattraper par rapport au transpersonnage donc qui n'est toujours pas sorti comme on en a parlé lors du précédent podcast. Hein.
Donc, pas. Non, a priori il sortira pas. Hein.
Dommage. Hein. Moi quant à moi je vous souhaite une bonne soirée, une journée, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le podcast spécial pour un retour sur 2013. Bonne soirée, see you Space Cowboys.